pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous allons parler de la grève des sans-papiers de la société NTI. NTI est une entreprise opérant dans le secteur du bâtiment, de la propreté et du traitement de déchets. Cette société sous-traitante de grands groupes qui gère au titre de délégation de services publics des sites de traitement et de tri de déchets notamment pour Veolia, Suez, Paprec et Brasaire et autres. Le lundi 28 août, 11 salariés hommes et femmes de la société NTI ont décidé de se mettre en grève pour exiger leurs droits. Le mercredi 30 août, un rassemblement de soutien se tenait devant le centre de tri de collecte sélective du 15e arrondissement de Paris. Et à cette occasion, nous vous diffusons le reportage réalisé ce même jour devant le centre de tri sélectif où nous avons rencontré les salariés en lutte. Et vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Bonne écoute. Il y a une grève qui a démarré dans la société NTI depuis le 28 août. Et on est avec l'un des salariés de cette société. Peut-être commencer par pourquoi vous êtes mis en grève.
Je m'appelle Mustapha, je suis salarié de NTI depuis 2019. Je travaille jusqu'à 2021 sans déclaration. Et j'ai eu un contrat CDI fin de chantier depuis 16 février 2021. On a vraiment souffrir avec cette société. On travaille avec des conditions de travail pas bien, mauvaises conditions de travail. On a eu aussi un accident de travail. Mon collègue, il a resté un an et demi sans salaire, sans rien, à cause de ça. Et le problème, c'est que le gérant, ils lui disent que pourquoi tu as appelé le pompier. C'est ça la cause.
Le départ.
Le départ.
NTI, en fait, c'est un sous-traitant.
Ouais.
Tu peux m'en parler un petit peu plus?
NTI, c'est un groupe. Ouais. C'est un groupe. Il y a NTI collectif, il y a NTI bâtiment et déchets. Quand on a eu cet accident, mon collègue a essayé de trouver une solution avec le gérant. Et après, le gérant, il ne voulait pas. Donc, on a essayé de contacter l'inspection. Et quand on a contacté l'inspection, vraiment, l'inspection elle a venu et tout, et c'est vrai,
de travail.
Elle a venu et c'est vrai, elle a trouvé des gens sans déclaration. Voilà.
Donc NTI, ça regroupe Veolia, Paprec, d'autres encore?
Donc NTI, c'est sous-traitance. Sous-traitance avec Veolia et Paprec et SOS.
C'est un groupe assez important, quoi, du coup.
Ouais. Donc, et Veolia est dans l'argent. Donc, c'est comme un intérim. Donc, nos sociétés, c'est comme un intérim.
Parce que Veolia et Paprec, on connaît bien en France. Hein. C'est quand même Paprec, c'est le recyclage du papier. Veolia, c'est les ordures notamment, un peu l'eau aussi. Donc, on voit qu'ils sont quand même étendus assez dans divers secteurs.
Un truc, c'est pourquoi le Veolia, elle préfère le sous-traitant. Parce que c'est pour nous, c'est pour Veolia, c'est moins cher. Donc c'est pour la journée, 60 euros pour la journée. Je ne pense pas un salarié de Veolia, ça touche ça. Hein. Bah oui.
Toi, ton salaire, c'est en moyenne combien?
Quand j'étais sans contrat, c'était 60 euros pour la journée et 80 pour la nuit.
D'accord.
Et quand j'ai eu mon contrat, c'est presque 1350, 1400, 1500. 10 fois, ça m'arrive jusqu'à 1800. Mais 1800 avec les samedis. Donc,
ouais, il fallait faire beaucoup d'heures.
Voilà. Pour avoir 1800 euros, il faut parler avec les gérants pour payer les jours suppléments et le jour plus de jours fériés et le 25% de samedi. Si tu ne parles pas de ça, tu vas avoir un salaire de 1400.
Ah ouais, si tu dis pas, dis donc, tu dois me payer des choses, voilà. Ah bah, j'ai oublié quoi.
Voilà, c'est pas oublié, mais c'est, ouais. Ouais, c'est, voilà, il travaille comme ça le gérant. Hein.
Ah. Ouais. Puisque vous demandez des CERFA, hein, donc ça veut dire vous demandez vos droits d'être régularisés, puisque vous travaillez ici, donc vous demandez la régularisation. Donc ça veut dire que aussi vous êtes venu d'autres pays pour venir travailler en France.
Bah voilà, ouais, moi j'ai venu par visa, touriste, ouais, depuis 2015. Donc je suis venu ici pour régler ma situation, pour l'avenir. Et en plus, j'ai Bac plus 2, j'aimerais bien de continuer mes études. Mais voilà, j'espère. Quand j'ai déménagé à Paris en 2019, j'ai contacté des gens. Et en 2019, j'ai contacté des gens. Et tu vois là, il y a un ami, il a donné mon numéro à un chef qui travaille avec chez NTI. Avant, il était OPS. Donc, avant, il était OPS. En 2019, j'ai trouvé moi OPS. Mais quelques mois, ils ont changé le symbole et la société. On nous dit que voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est NTI. Donc, moi, j'ai travaillé que 3 mois presque. C'était OPS. Après, ils ont recréé NTI. Ils nous disent voilà, il ne faut pas dire OPS, c'est NTI. Et quand on a arrivé des problèmes, ils ont déposé le bilan de NTI, ils ont créé AR l'environnement.
Ah oui, ils ont créé une autre boîte.
Donc, la société, ça marche comme ça. Les gérants, ils disent, elle fait une société pendant 3 ans, elle ferme, elle refait, elle ferme, elle refait, elle ferme.
Ils en ouvrent une autre, etc.
Voilà, parce que j'ai une idée qu'en France, c'est si tu crées une société, tu as 3 ans sans impôts. J'ai une idée comme ça. J'ai une idée que c'est quand tu as créé une société, tu as 3 ans.
Donc au bout de 3 ans, ferme et on en
voilà, tu ne payes pas les impôts pendant 3 ans. Donc eux, ils font comme ça. 3 ans, ils prennent l'argent, ils ferment, ils recréent une autre société et ça marche comme ça. Et c'est vraiment, j'ai vu ça. Donc par exemple, mon gérant, il a beaucoup d'argent au Maroc. Beaucoup d'argent, des bâtiments à louer. C'est vraiment, ça se voit ça, ça se voit. Même ici en France, ça roule avec une voiture qui bah, ça roule avec les 50 000, je crois, c'est 50 000, 40 000, jusqu'à 60 000. Donc ça se voit, il y a beaucoup d'argent. Donc, ça se voit. Ah.
Combien vous êtes de salariés chez NTI?
On était 150 et 60 déclarés.
Ah, d'accord, donc la moitié 60, même plus de la moitié qui n'est pas déclarée, quoi.
Ah, bah, plus la moitié qui n'est pas déclarée.
D'accord. Et vous êtes combien en grève?
On est 11.
Ces 11 personnes se sont dit c'est plus possible, on se met en grève.
Et je donne une idée que le gérant, pour lui, il préfère les gens sans contrat et qu'il fait un contrat. Parce que sans contrat, il gagne beaucoup d'argent. Ouais. Donc il paye moins cher, il ne paye pas l'État. Donc si pour lui, il préfère sans contrat qu'un contrat. Par exemple, pour avoir un contrat, avant, pour avoir un contrat, il faut vraiment souffrir pour avoir un contrat.
Ouais,
il faut insister pour avoir un contrat.
Est-ce qu'il y a des menaces, par exemple, pour des gens qui se seraient intéressés de leurs droits en leur disant « si tu t'intéresses toi à tes droits, on te fait expulser ». Est-ce qu'il y a eu ce genre de menaces?
Oui, moi aussi, ça m'arrive ça. Quand j'insiste à m'en déclarer et tout, ils me débarrassent de travailler. Ils ne m'appellent pas pour travailler.
D'accord.
Mais j'ai insisté pour rester travailler. Donc un jour, la fin 2020, il ne m'a pas appelé pour travailler. C'était un lundi. J'ai pris mon sac à dos et j'ai parti direct au travail. On était à Saint-Ouen-en-Mont. Avant, il était volé, mais maintenant, c'est pas prêt. J'ai rentré le site pour travailler forcément.
D'accord.
Et après, il m'a appelé le gérant. Il m'a dit, on ne t'a pas appelé. Je lui ai dit, non, je suis depuis 2019 avec vous. Donc voilà. Et quand j'ai rentré, j'ai trouvé 10 nouveaux salariés sans contrat.
D'accord.
Et sans papier. Après, il m'a fixé un rendez-vous à le siège d'NTI. Et après, j'ai parti pour cette réunion. Après, il m'a dit, t'as vu pourquoi je te fais ça? Parce que tu parles beaucoup, il faut fermer ta bouche. Je lui dis, oh, je ne ferme pas ma bouche, mais voilà, il faut me faire un truc. Voilà, comment je suis depuis 2019 avec vous et un long jour demain, tu m'as dégagé. Et après, il m'a dit, c'est bon, je te fais un contrat, CDI, et je te donne un poste. Et c'est vrai, il m'a fait un contrat. Il m'a donné un poste fixe à Montillon, c'est à Mou, 77. Ouais. Quand je voulais déposer mon dossier en 2022, j'ai essayé de me donner le CERFA. Il ne m'accepte pas, il m'a dit non, je ne pourrai pas. Et en même temps, lui, il a donné le CERFA à des autres personnes, qu'ils en entendent bien avec lui. Et après 2 jours, il m'a appelé et il m'a dit, est-ce que tu as 6000 euros pour un CERFA? Il m'a dit, j'ai un ami, il a une société, il faut 6000 euros pour vous donner un CERFA. Je lui dis non, pour moi c'était... Non, non, soit le CERFA de la société, soit c'est bon, ça passe ça.
Ouais, quelque chose de carré, quoi, de voilà.
Et voilà. Et voilà.
Parce que c'est tout bénef quand même pour les entreprises comme ça, de prendre des sans-papiers, de leur faire plein de choses et de les payer vraiment rien, quoi. C'est vraiment tout bénef pour ces entreprises.
C'est trop bénef. Ouais. C'est trop bénef pour eux. Ah oui. Mais j'ai vu ça d'autres sociétés. Ils travaillent et ils recrutent des gens sans contrat, sans papier. Ah, les patrons, ils sont vraiment, vraiment riches. Hein. Ah oui, je connais bien des Marocains. Ils ont des sociétés de ménage et tout. S'il n'y a pas de riche ici, mais au Maroc, il est riche. S'il n'y a rien ici, donc au Maroc, il y a minimum 3 appartements, 4 appartements. Ah oui.
D'ailleurs, on voit aussi, hein, il y a beaucoup de sous-traitance, par exemple, dans la téléphonie au Maroc. Oui. Des sociétés qu'on connaît, hein, je ne vais pas citer là, mais qu'on connaît de téléphonie mobile, qui ont des sociétés françaises, hein, qui ont leur site aussi au Maroc, hein, leur plateforme téléphonique qui sont au Maroc, beaucoup. Il y a des négociations qui sont en cours ou pas? Comment ça se passe?
Bah c'est ça, il y a des négociations aujourd'hui, mais on attend. D'accord. On attend, oui.
D'accord.
Il y a une CGT qui est avec le siège de Volia. Mmh. Il y a un représentant de nous, il est avec la CGT. D'accord. Donc on attend. Mmh. Il a même un rendez-vous jeudi avec le ministre.
En gros, donc, ce que vous demandez, c'est, on va rappeler, régularisation?
Oui, c'est ça. On espère de nous régulariser et de travailler comme les autres salariés. Voilà. C'est vraiment pour rester 8 mois sans travail, sans salaire. On a un loyer à payer, on a nourriture à manger. Donc, voilà, c'est vraiment...
Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'aussi, est tout à fait normal qu'il y ait un rattrapage justement de ces 8 mois, quoi, justement, que vous n'avez pas été payé.
Oui, c'est vraiment... C'est... Par exemple, pour moi, j'ai un dette qu'il faut payer.
D'accord.
Je prends d'argent à des amis que je connais. Et voilà.
Alors bonjour, Sonia Boularaoui, je suis déléguée syndicale Sistra. Donc Sistra, en fait, c'est une société donc système de transport. En fait, on est spécialisé dans les tout types de transport. Donc ça peut être du transport ferroviaire, transport en commun. Donc transport en commun, c'est ligne de tram, métro, bus. En tous les cas, c'est tout type de transport de la personne. C'est vrai qu'en tant que militante CGT, déléguée syndicale, moi je me dois d'être là pour aider mes autres camarades en fait. Et d'autant plus que ce sont effectivement nos voisins, donc voilà, c'est pour ça qu'on est venu les soutenir. Après on a été là aussi pour le groupe Accor, donc ça va de soi que voilà, on se doit d'être là pour nos autres camarades salariés. De ce que j'ai compris, ce sont des salariés en situation irrégulière qui demandent à être régularisés. Donc c'est des sans-papiers qui travaillent. Donc c'est illégal. Donc l'employeur, en fait, c'est un délinquant. Pour moi, c'est pas normal. Donc ils sont pas protégés, ces gens-là. Donc ce qui serait bien, c'est qu'ils soient régularisés et qu'ils puissent décrocher un CDI pour pouvoir vivre correctement. Parce que j'imagine que ces gens-là, ils ont le minimum, ils ont pas de mutuelle, ils ont pas de sécurité sociale. Enfin, c'est un scandale. Franchement, je pensais pas qu'en France, ça pouvait exister, en fait, une telle situation. Mais malheureusement, ça existe. La preuve en est. Voilà.
Comment vous avez eu vent de cette affaire?
Eh bien, par un camarade de Veolia, Ali, qui est délégué central de Veolia. Donc forcément, on est en lien avec nos autres camarades. Hein, on essaie d'être solidaires le plus possible. Et puis de se contacter, de se mobiliser, peu importe le domaine d'activité. Quand voilà, il faut être là.
Ces personnes
sont sous-traitants de Veolia. Ils ont recours à la sous-traitance comme beaucoup de sociétés françaises, mais ce n'est pas normal en fait ce qui se passe. Ils devraient déjà vérifier aussi les papiers quand ils prennent des sous-traitants, quoi, pour être sûr que les gens travaillent légalement en fait. Moi, ça me fait beaucoup de peine quand même pour ces gens-là, parce que je me dis, je pense que c'est des bons travailleurs qui mériteraient d'être comme tout le monde en fait, régularisés.
Un salarié de Inti Group qui fait la sous-traitance avec Veolia, il n'est pas prêt, qui est Suez. On a commencé de travailler avec la société depuis 2019. On est des salariés sans papier, on est travaillé sans déclaration. Je suis un agent de tri, agent d'entretien en maintenance, agent de presse, conducteur d'engin, je suis un salarié polyvalent. Les mesures dures qu'on a fait depuis le début, c'était au noir, sans déclaration, avec la différence injuste. Nous sommes mal payés par rapport au travail qu'on a fait entre nous et l'équipe de Veolia et pas près que Suez. Franchement, le manque de respect et la maltraitance qu'on a vécu avec les responsables et les chefs d'équipe et les entreprises et vu surtout qu'ils ont été en courant de notre situation irrégulière.
J'aimerais que tu me parles un peu de ton poste de travail. Qu'est-ce que tu fais toi exactement?
Je suis un agent polyvalent. Je fais le tri, je fais l'entretien, agent de presse, conducteur d'engin. On est des salariés, on travaille sans formation dans l'engin. Pour un salarié qui travaille avec nous, et vient, il travaille sans entretien, sans rien. Et il appelle le patron aujourd'hui, le lendemain, il vient, il travaille normal.
Donc vous êtes en grève depuis le 28. Qu'est-ce qui a déclenché cette grève?
Avec la CGT. On était obligé de faire ça pour régler la situation et qu'on travaille tous pareil. Personnellement, j'ai vécu des choses horribles avec eux. Le père, c'était le jour de l'accident de travail. Le patron ne veut pas déclarer, il n'était pas content. J'ai resté sans salaire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour ce que on est des victimes, violences et des promesses régularisation du séjour. Alors, la société elle était déclarée faillite de l'entreprise. Et toute l'équipe en galère financièrement et en restant en même situation. Ce n'est pas humain. Le père, c'était qu'ils ont osé d'ouvrir une autre entreprise devant nos yeux avec les anciens salariés sans papier, alors que vous étiez en courant de tout et vous êtes toujours en relation avec eux. D'accord. Après 4 ans de travail avec vous, est-ce qu'on mérite ce comportement? Nos demandes, nos droits aujourd'hui, franchement. Par exemple, sur le tri, la chaîne, par exemple, elle fait le 3 sur la vitesse. Nous, on travaille, la deuxième équipe, la vitesse, c'est 5 ou 6. Et par exemple, quand il y a un arrêt sur la machine, les embauchés restent sur la cabine. Et pour les salariés de NTI, ils descendent en bas pour nettoyer toute l'usine. Et on travaille double journée. Des fois, les chefs, ils demandent de travailler, ça veut dire le matin. Et quand on finit le soir, on travaille dans un autre set sans repos. Et on a travaillé les jours fériés sans payer. Et samedi,
Sans compensation de salaire, sans les heures supplémentaires, quoi.
Exactement, d'accord. C'est ça. Exactement. D'accord. Et sans déclaration.
Moi, je voudrais savoir un petit peu quels sont les salaires. Justement, on parlait des salaires. La moyenne des salaires, par exemple, toi, tu es payé combien ?
800 euros par mois. D'accord. 900 euros.
D'accord, c'est même par pas, mois. Même pas le SMIC, quoi.
Même pas. Même pas. Oh. Et le plus pire, c'est sans déclaration chez les CRFA et sans fiche de paie. La plupart des salariés, il faut travailler 2 ans ou 3 ans sans déclaration. D'accord. Avec des fausses promesses.
Parce que Veolia, Paprec et tout ça, c'est des grands groupes. Ils font de la publicité partout. Paprec se fait passer, ce que nous, on avait suivi une lutte chez Paprec à la Courneuve. Et ils se font passer pour des bienfaiteurs de l'humanité, respectant la planète et tout ça. Mais visiblement, ils ne respectent pas beaucoup leurs salariés. Hein.
Exactement, exactement. Il y a de le favorisme entre les salariés de INTI et les salariés de Veolia et Paprec et Suez, etc. Ouais.
Tu travailles depuis combien de temps dans cette société ?
J'ai commencé de travailler depuis 2019.
D'accord.
Juillet 2019, ouais. La plupart des salariés, ils travaillent 2019-2020. Il y en a qui ont commencé 2018, ouais.
Comment tu es arrivé dans cette entreprise ?
C'est un ami que j'étais connu au Maroc. Il est un ami proche de le grand patron. On est de la même vie au Maroc. La plupart, c'est de la même vie.
D'accord.
On n'est même pas 200 km entre nous.
Quel a été le résultat des négociations, du coup ?
Ouais, ce matin-là, on a vu la direction, les directeurs généraux de Veolia... qui représente Île-de-France, qui représente Veolia Le Monde, les grands dirigeants de Veolia. Mais aujourd'hui, on a fini par une positive solution, on peut dire une positive solution. C'était pas ce qu'on voulait dès le début, mais c'était quand même un bon pas pour l'avant. Et ils ont dit que voilà, nos collègues, ils ont réglé leur situation et ils travailleront avec Veolia d'ici au futur et ils seront bien nous soutien et ils ont même affirmé qu'ils auront leur ancienneté avec eux depuis qu'ils ont commencé avec eux jusqu'à maintenant et c'était un bon pas de la part de Veolia et nous aussi on voulait d'autres trucs. On va accepter, on est encore en hésite, je vais voir, il faut voir avec les collègues de base et après on prend notre décision.
Donc vous allez tous régulariser ?
Ouais, on sera tous régularisés d'ici le délai le plus proche.
En fait, comme il vient de dire Amine, il va falloir qu'on donne vraiment l'expression à tous les salariés. Parce que la réunion elle a commencé par un déni de la direction sur le fait qu'elles soient des travailleuses et des travailleurs ayant travaillé chez Veolia. Donc en fait ça a commencé comme ça. Nous en fait on a demandé l'embauche en CDI avec reprise de l'ancienneté. Et d'autres points de revendication. Mais en fait, leurs revendications, elles sont les mêmes que les travailleurs avec papier. Il faut les écouter comme des travailleurs, en fait, et des travailleuses, qu'ils aient ou qu'ils aient pas des papiers, le droit du travail, il est le même. Et on a demandé aussi le rappel des salaires, comme une démarche normale de tout salarié, de demander les indemnités sur les préjudices, qui est une reconnaissance, en fait, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'ils ont vécu. Donc il y a quand même de nombreux points de blocage sur cette reconnaissance. Ils nous présentent l'embauche et ils sous-entendent derrière la régularisation administrative comme un service. Sauf qu'en fait, la régularisation administrative et l'embauche, en fait, c'est le béaba pour commencer des discussions constructives. C'est des salariés essentiels à la nation qui ont travaillé dans le secteur du déchet, qui ont contribué au traitement des déchets ménagers. Et en fait, ils sont dans le déni complet sur leur obligation de vigilance. Donc, on leur a dit, nous, on veut négocier en bloc. C'est-à-dire, ça s'articule, en fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire, les papiers, l'embauche, les rattrapages de salaire, les indemnités, pour retrouver une situation normale, en fait. Il faut qu'il y ait réparation de cette situation-là. Voilà un peu le ressenti qu'on avait en sortant avec la délégation. Maintenant, en effet, c'est un point positif. Ils nous demandent, est-ce que les salariés, ils ont réellement travaillé chez Veolia? Ça commençait à chipoter sur les équivalents temps plein, combien de temps ici, combien de temps ici. Mais sauf qu'en fait, en nous posant ces questions-là, en fait, ça démontre qu'ils n'ont pas pris conscience de la réalité de leurs conditions de travail dans les entreprises des donneurs d'ordre. Parce qu'ils nous parlent toujours de NTI, de NTI, de NTI. Mais en fait, ces salariés-là, eux, ils connaissent pas NTI. Ils ont travaillé chez Veolia. Ils ont 3 à 4 ans, ils ont travaillé chez Veolia. Après, ils nous disent qu'ils ont également travaillé chez Suez, chez Paprec, chez Urbazer, ce qui n'est pas faux. Mais ces salariés-là, ici présents, ils ont travaillé principalement chez Veolia. Et notamment sur le site du XVO, Sictom, Veolia, Paris 15e. Donc, on a dit, nous, qu'on est sur le site, les collègues, on se connaît. Les salariés avec papier font les assemblées générales avec nous. Il y a une prise de conscience, en fait, qu'au-delà de la solidarité, il faut qu'on combatte ça. Parce qu'en fait, on est tous et tous attaqués. Ils nous nivellent nos socles sociaux et nous dégradent nos conditions de travail à l'ensemble. C'est très particulier comme situation. Et ils nous demandent de leur envoyer la liste des noms des salariés, avec où ils ont travaillé. On leur a précisé qu'il fallait également qu'on leur envoie les documents administratifs, notamment pour les démarches préfectorales. Donc nous, on a tous ces éléments-là, mais pas seulement. On a constitué des dossiers et on a les preuves qui démontrent qu'il y a un préjudice pour les salariés et qu'il y a une responsabilité des entreprises donneuses d'ordre. Et donc ça, il faut qu'on en discute avec les salariés et qu'ils fassent des assemblées générales, la tête un peu refroidie, qu'on pèse le pour et le contre et qu'on voit comment on avance.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade, contrastant ses souvenirs. Tarbeda, un embarcadère ensoleillé au départ. Une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar. Celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main, frappant le flanc de cette valise, retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents ont force à cingler leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elles gardent en elles, ces séquelles marquent son cuir et le morcel.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafrait de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizène qui pleure un fils parti gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. Qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, partie de la soufrière, en portant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil, commence un triste épisode lorsqu'il débarque des îles. Pour finir empilé sur l'armoire du foyer, témoin du gain dur à envoyer. Souvenir terne d'une employée fidèle, toujours à la traîne derrière cet employé modèle.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, de près d'un quart de siècle mon aîné. Dire qu'en 62, des ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée. Elle témoigne de ses rêves en rupture de sève, à la levée des passerelles sous une averse de grêle. Le mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir le vieil héritage colonial dominé par les siècles, reliant le Havre et ses environs depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation. Quand même les rats et les cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France d'après-guerre,
se pourrait que cette valise confinée dans un coin hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Nous sommes le 28 août 2022 sur la commune du Mouy, dans le Var, pour une action de vendange militante organisée par la Confédération paysanne et les soulèvements de la terre.
Pour le déroulé un peu de l'action, donc là l'idée, on va vendanger un peu les parcelles de Bernard Arnault pour reprendre un petit peu de ses profits qui s'accaparent. Alors sur le déroulé, on veut absolument que les vendanges soient propres et que les vignes soient préservées. On prend le raisin dans les caisses qu'on va recharger dans les voitures. Donc ça, ça va être la première partie de l'action. On fait ces vendanges tranquillement, on ramasse le raisin et après on repart en manifestation et on va aller devant le caveau en construction, là-bas au rond-point, pour presser tout ça.
Il y aura des chefs de rang du coup qui vont vous distribuer des épinettes avec une caisse vide. Vous partez avec votre binôme, vous remplissez la caisse, vous la ramenez pleine au bout du rang et vous redonnez les deux épinettes à votre chef de rang. Voilà, amusez-vous.
Non, si tu savais, ton pinard, Bernard, si tu savais. Aucune hésitation, on boit à la révolution. Bernard, si tu savais, ton pinard. Bernard, si tu savais, ton pinard, ce qu'on en fait. Du jus, aucune hésitation, on boit à la révolution.
Alors, peut-être tu veux te présenter, tu fais partie de la Confédération paysanne et très impliqué dans cette action qu'on a aujourd'hui dans le Var.
Oui, Sylvain Apostolo, je suis co-porte-parole de la Confédération paysanne du Var. Voilà, c'est une action nationale entre la Confédération paysanne et Soulèvement de la Terre pour dénoncer l'accaparement des terres qui a lieu ici mais aussi et partout en France, qui a la particularité de se faire à travers l'achat de parts sociales qui permet de contourner les outils de régulation qu'on a aujourd'hui et pour répartir les terres. Donc ici, on est sur une parcelle qui appartient à LVMH, à Bernard Arnault, qui est un homme milliardaire et qui considère l'agriculture comme des fonds d'investissement. Et nous, on vient rappeler que c'est l'agriculture et la terre, c'est un bien commun et qu'il faut qu'elle reste aux paysans et aux paysannes et qu'on se la répartisse.
Traditionnellement, ici, historiquement, c'était toujours des grands domaines ou il y avait une époque où c'était plutôt les plus petites fermes, des viticultures?
Bon, il y a toujours eu un peu de tout, on va dire, mais là, aujourd'hui, on a affaire en fait à des groupes financiers, à des holdings qui ont des volontés de prédation assez agressives et qui rachètent les terres, qui mettent vraiment la pression sur des territoires. Et on a une vraie pression foncière sur les terres. Aujourd'hui, dans cette vallée, on est passé de 45 000 euros à 120 000 euros en l'espace en quelques années. Donc c'est une flambée des prix, c'est une concentration avec des situations de quasi-monopole. Donc là, avec l'enjeu de renouvellement des générations qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% de la population agricole qui va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir de vrais enjeux de concentration des terres et de renouvellement des générations.
Alors ce domaine-là qui appartient, je crois, à 55%, si j'ai bien compris, à LVMH, c'est ça?
C'est... Oui, c'est ça.
Ça fait combien d'hectares?
Alors là, le domaine aujourd'hui, il a plus de 400 hectares, mais il a 140 hectares de vignes. Mais en fait, avec tout le raisin qu'il achète autour, on estime que ça équivaut à une surface de 1000 hectares. Alors après, il achète du raisin à des viticulteurs, et pas forcément à un mauvais prix d'ailleurs. Mais ce qu'on dénonce, c'est la mainmise sur un territoire et la quasi-situation de monopole, parce qu'après, quand il sera plus que tout seul, c'est lui qui va faire la pluie et le beau temps sur des zones entières, quoi. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. On a un enjeu à ce que l'agriculture reste diversifiée, avec des paysans et des paysannes nombreux, qui permettent de répondre aux enjeux qui vont se présenter à nous, climatiques, alimentaires, qui arrivent dans l'avenir, quoi.
En fait, quelque part, ils remplacent la coopérative qui, sans doute, quand même existe aussi ici, non?
Oui, oui. C'est-à-dire que par le fait qu'ils s'accaparent des terres, qu'ils rachètent du raisin des fois plus cher que la coopérative pour leur faire concurrence, c'est amener à mal les outils collectifs, qui étaient des outils qui ont été créés justement contre les groupes financiers, les groupes qui rachetaient du raisin pas cher. Et donc c'était des organisations collectives qui avaient pour but de maîtriser la commercialisation pour lutter contre justement les vendeurs de vin, quoi.
À partir de cette action, est-ce que vous avez des idées comment poursuivre en quelque sorte cette lutte contre la... On pourrait presque appeler ça la gentrification de l'agriculture quelque part.
Oui, c'est ça. Après, c'est aussi là une des revendications, c'est avoir une vraie loi frontière qui protège les terres et qui permette de les répartir. On sait très bien que cette lutte, ça s'inscrit déjà dans une suite d'actions qui a déjà eu lieu et que c'est des luttes de longue haleine. Mais on veut mettre en lumière cette problématique pour que toute la population se rende compte de ce qui se joue dans l'agriculture à l'heure actuelle.
Mais j'aimerais bien comprendre un peu cette spécificité avec ces sociétés par rapport à SAFER. Parce que vous avez dit qu'enfin, quelque part, ça contourne, enfin, ça ne fonctionne pas comme il faudrait avec les institutions qui sont quand même là pour réglementer, pour régler un peu les questions de vente foncière.
Mais en fait, aujourd'hui, la SAFER peut intervenir dans une vente lorsqu'il y a une transaction de terre classique, on va dire. Un vendeur A et un acheteur B, et il y a une parcelle qui se vend. En fait, là où elle ne peut pas intervenir à l'heure actuelle, c'est dans l'achat de parts sociales, dans des sociétés. Alors, il y a une loi qui a été faite en fin 2021, qui est la loi Sempastous, qui avait pour objectif justement de réguler ces achats de parts. Et en fait, elle a été complètement vidée de son contenu, donc on sait que ça va être quasiment inapplicable parce qu'il n'y a pas les moyens et les conditions vont être trop compliquées à réaliser. Donc on sait déjà, même elle n'est pas encore promulguée, que ça va être inapplicable. Donc en fait, c'est ça l'enjeu, c'est que là, les achats de parts sociales, au lieu d'acheter un domaine entier, ils achètent 55%. Ils prennent le contrôle comme ça, et ça permet de s'agrandir et d'augmenter ces espèces de filiales et d'holdings. Et c'est de cette façon qu'ils contournent ce qu'on appelle en agriculture le contrôle des structures, mais voilà, les moyens de régulation qui permettent de répartir le foncier, quoi.
Mais vous, à la Confédération Paysanne et peut-être à l'ADR et tout ça, vous avez connaissance de jeunes, peut-être, ou peut-être moins jeunes, mais qui voudraient s'installer en viticulture dans la zone, et en fait, ça devient très très difficile.
Là, ça devient même impossible, parce qu'au prix des hectares, pour des jeunes qui sont en dehors de l'agriculture, c'est quasiment impossible de s'installer aujourd'hui. C'est ça un peu le problème qu'on porte. Et même pour ceux qui héritent, il y en a qui ne savent même pas comment ils vont faire pour payer les frais de succession, quoi. Donc, parce que ça a pris trop de valeur. Donc c'est ces enjeux-là au niveau territorial qui se posent, quoi.
Merci beaucoup.
Paysanne, paysanne, nous chérissons la terre. Paysanne, paysanne, la terre de nos enfants. Paysanne, paysanne, plus question de nous taire. Paysanne, paysanne, solidaire et vivant. Ils ont empoisonné la terre, asséché les marais, arraché la volie vénère, cloné l'arche de Noé.
Paysanne, paysanne, plus question de nous taire. Paysanne, vendre pour plus de terres nourricières. Partageons les luttes du monde avec Jacob Messina. Partout où la colère gronde, la France toujours sera là. Paysanne, paysan, nous chérissons la terre. Paysanne, paysan, la terre de nos enfants. Paysanne, paysan, plus question de nous taire. Paysanne, paysan, solidaire et vivant.
Voilà, donc là, on se remet en ordre de marche. Les voitures font demi-tour et elles nous suivent dans le cortège. On y va à pied. Quand il n'y a que ces voitures-là qui sont chargées de raisins, avec les presses, qui nous suivent. Voilà.
Nous voilà partis à pied vers la place devant la future cave de Bernard Arnault, une distance d'environ 1 km, accompagnée par la fanfare de la Redonne, bien connue lors de mobilisations dans la région.
On va mettre en place l'atelier pressage. Il y a les voitures avec les caisses, les trois pressoirs. Et donc, il va falloir se partager un peu le travail. Il va falloir des équipes qui bossent sur le foulage et le pressage du raisin.
J'ai le désir de ce vin d'où me vient toute joie.
J'ai le désir de ce vin d'où me vient toute joie.
Et j'ai le désir de ce vin d'où me vient toute joie.
Il était un petit écolo,
il était un petit écolo
qui n'avait jamais vendangé, qui n'avait jamais vendangé. Ohé, ohé.
Ohé Bernard Arnault, on te vole ton pinard qui coule à flot.
Quelques dizaines de personnes se mettent à fouler les raisins dans les nombreuses caisses. Ensuite, les raisins foulés sont versés dans les trois pressoirs qui sont tournés manuellement sous la direction de trois vignerons du Var, membres de la Confédération paysanne.
Si t'es fier d'être vendangeur, frappe dans tes mains. Si t'es fier d'être vendangeur, si t'es fier d'être vendangeur, si t'es fier d'être vendangeur, frappe dans tes mains.
Je me suis installée comme vigneronne il y a un an et demi. Et j'ai eu la chance de trouver des terres après 2 ans de recherche dans le Var, la région, enfin le département où j'ai grandi, où je voulais être, quoi. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer. Et c'est pas le cas pour tout le monde ici, mais ça a été long, mais je suis très contente. Ouais.
Oui, parce que ce que je comprends avec cette action aujourd'hui, c'est que ça devient vraiment de plus en plus difficile.
Oui, oui. Bah là, on est dans une zone où les prix des terres dans le vallon des Esclans, avec en Côte de Provence, il est passé de 50 000 à 120 000 euros en quelques années, en moins de 10 ans. Et donc, c'est sûr que pour s'installer, enfin, c'est très dur. Hors cadre familial, c'est même impossible en fait. Donc moi, je me suis pas installée dans ce coin-là parce que c'est absolument inaccessible. Mais je suis dans un coin où les terres, elles sont encore à peu près abordables, ouais. Ouais.
Et il y a moins ce phénomène de société qui prennent de plus en plus des vignes?
Bah si, par exemple, moi j'ai réussi à trouver des terres, mais en fait c'est un domaine qui appartient à un millionnaire belge qui revend des terres de son très grand domaine parce que c'est plus rentable et tout ça, quoi. Et c'est sûr qu'en plus, quand tu trouves des terres et que t'es hors cadre familial, tu tombes pas sur les plus jolies, quoi. Mais bon, ça va, j'étais déjà en conversion bio et c'était pas mal.
Mais votre collègue là-bas m'a dit qu'il y a quand même un risque de perte d'une sorte de tradition ou d'une culture de vigne. De plus en plus, en fait, c'est ces grandes sociétés.
Oui, pour vous dire, le domaine qui m'a du coup vendu les terres, il y a donc le propriétaire, puis ensuite il y a un certain nombre d'employés qui sont quand même très détachés de ça. Et donc tu as un œnologue qui vient, puis un chef de culture qui passe de temps en temps, qui donne des conseils, et là-dessus des tractoristes qui font le boulot, mais c'est complètement déshumanisé, quoi. Et là, on parle plus de culture, on parle de répondre à un produit de marché type rosé Provence, exact qu'on veut, et avoir des vignes qui produisent aussi au max pour que ça reste rentable, parce que même si c'est un système de défiscalisation d'acheter un domaine dans le sud, il faut quand même que ça soit un peu rentable, quoi.
Apparemment, ils utilisent beaucoup d'eau maintenant, ce qui n'est pas du tout dans les traditions.
Ouais. Alors ça, on voit beaucoup de vignes irriguées. Moi, je peux le citer, hein, le château de Berne à l'Orgue, qui détourne carrément le canal de l'Orgue, quoi, pour récupérer de l'eau et arroser ses vignes. Et là, on est on marche sur la tête, quoi. On est une production qui n'est pas nourricière et en plus une plantation de plantes méditerranéennes et on va arroser ça. Enfin, c'est au détriment de d'autres personnes à côté, des maraîchers. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas de sens. Ouais.
Et là, avec le conf, vous avez quand même un peu un contrepoint. Enfin, vous arrivez à contester un peu ça ou c'est...
Oui, on est présent dans les comités techniques de la SAFER, mais on est ultra minoritaire par rapport aux autres syndicats type FNSEA. JA, tout ça. Mais on est présent, oui, dans les commissions sur la faune, alors CDOA, enfin, après, je vais vous sortir plein de sigles, mais oui. L'idée, c'est que sur ces choses-là, ouais, on est présent. On est en lien avec, le préfet, la DDTM, c'est ça. Et aussi d'autres acteurs de tout ça, quoi. La chambre d'agri, tout ça. Mais bon.
Et vous avez d'autres collègues un peu de votre âge, enfin il y en a d'autres assez jeunes qui s'installent.
Ouais, au conseil d'administration de la Conf du Var, on est rentré, on est trois à avoir moins de 35 ans. Je ne sais pas si on peut considérer qu'on est jeune, mais cette année, ouais, on est rentré. Enfin, moi je suis arrivée là comme ça. Et puis il y a aussi Antonin qui est pépiniériste et Vincent qui s'installe en maraîchage. Et du coup, ouais, on a quand même des jeunes qui viennent dans la Conf et c'est cool. Ça donne un autre souffle pour des actions comme ça et tout ça.
Ouais. C'était une belle journée aujourd'hui.
Ouais,
bien. Ouais. on reviendra, j'espère.
Ouais, ouais. Super. Merci, à ouais. bientôt.
Merci ouais. beaucoup.
Pas sur cette place-là pour rien, c'est juste que cette usine, c'est la future cave ou usine plutôt du domaine du château d'Esclan et de Bernard Arnault qui est en construction, qui est en train de se construire un énorme truc là. Donc c'est pour ça aussi qu'on est venu symboliquement presser ici, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est dans ce sens-là, quoi, en plein soleil. On était allé visiter le caveau de Bolloré il y a 4 ans, pour dénoncer l'accaparement des terres déjà et l'accaparement. Pour le coup, là, qui était plus international, parce que cette personne possède plus de 300 000 hectares sur le continent africain. Donc là, aujourd'hui, on continue la tournée des Grands Ducs, hein, parce qu'on en a quelques-uns dans notre département. Donc aujourd'hui, c'est LVMH et Bernard Arnault. C'est vraiment le sens de cette action, c'est de dénoncer l'accaparement des terres et sa financiarisation, qui aujourd'hui prend un sens d'achat de parts sociales, de holding et de sociétés qui investissent dans l'agriculture et qui s'agrandissent et mettent la pression sur les territoires. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que cet accaparement et ces agrandissements, ça met une pression sur un territoire qui est assez énorme. C'est-à-dire que une pression au niveau de la spéculation foncière. Ici, on est passé de 45 000 euros l'hectare à plus de 120 000 en moins de 10 ans. Donc c'est-à-dire que tout flambe. Et donc on arrive dans des zones comme ici, à des quasi-situations de monopole. Il faut savoir un peu ce que ça représente, ces transactions par achat de parts sociales. Aujourd'hui, ça représente 6% des transactions, que c'est pas grand-chose, mais en fait, quand on commence à regarder en termes de surface, ça représente 58% des surfaces. Donc en gros, à l'heure actuelle, c'est la majorité des surfaces agricoles qui sont vendues, qui sont rachetées par les systèmes de parts sociales. Si à côté de ça, on croit ça avec les enjeux aujourd'hui de renouvellement des générations qui va se présenter au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire que dans les 10 ans qui viennent, il y a presque 50% des paysans et paysannes qui vont prendre la retraite. Donc on va avoir des enjeux au niveau du renouvellement des générations qui va être essentiel et fondamental. Et on risque d'avoir des effets boule de neige, d'accaparement de plus en plus important, de par ces ventes qui vont être de plus en plus massives, quoi, et de la diminution du nombre de paysans. Salut les vendangeurs, salut les vendangeuses.
J'espère que vous avez pu bien faire usage de vos outils ce matin, que vous êtes tous super contents d'avoir fait cette récolte. En tout cas, nous, on est vraiment absolument ravis. Ce jus n'en aura que meilleur goût quand on sait d'où on l'a pris. Et on est absolument ravis de répondre à l'invitation de la Confédération Paysanne pour récolter les fruits de l'accaparement. C'est une très belle action symbolique qu'on fait aujourd'hui, mais on pense que récolter les fruits de l'accaparement, il faudra le faire demain dans bien d'autres départements, en bien d'autres endroits. Et pas que sur le vin, avec des moissonneuses-batteuses, avec des faucheuses, avec tous les outils de travail que les uns et les autres paysans et paysannes on utilise dans le cadre de notre quotidien. La conf, ils ont un certain sens de l'humour, puisque la dernière fois, ils nous ont fait venir dans le Jura pour arracher des vignes qui partaient à l'enfrichement et qui appartenaient à un milliardaire russe. Et aujourd'hui, donc, on a été invités à récolter les vignes de Bernard Arnault. On aurait bien voulu vraiment y rester toute la journée, prendre beaucoup plus de quantité de raisins, mais on espère que l'année prochaine, on pourra faire ça avec encore plus de temps devant nous et encore plus de monde. Je vais juste vous toucher deux mots de la saison des soulèvements qui vient et deux mots sur la question de l'accaparement. Nous, au niveau des soulèvements de la terre, la question de l'accaparement des terres par le complexe agro-industriel, de l'agrandissement, de la concentration, du phénomène sociétaire, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations politiques. Mais c'est un thème sur lequel on a du mal à la fois à trouver des leviers d'action et à la fois à être compris du grand public, parce que c'est des questions assez techniques. Et si on veut expliquer dans le détail la défaillance de la régulation, les défaillances de la CDOA, les défaillances de la SAFER, ça implique d'un coup d'employer plein de sigles, plein de concepts juridiques que personne comprend. Alors que quand on va vendanger chez Bernard Arnault et qu'on dit lui, il prend plein de terres, c'est déjà un peu plus simple à comprendre pour les uns les autres. Mais on voudrait quand même que ces actions contre l'accaparement, elles se multiplient, qu'il y en ait dans d'autres départements, et qu'elles essayent d'articuler ensemble plusieurs stratégies. Une stratégie qui est celle qu'on a fait aujourd'hui, récolter les fruits de l'accaparement. Mais il y a aussi d'autres gestes possibles. Il y a l'occupation, la réquisition. Il y a aussi des stratégies de pression vis-à-vis des institutions, des CDOA, des SAFER quand elles ne font pas leur rôle. Et tout ça, on espère que la suite de ce qu'on a engagé l'année dernière avec les formations à Bagnolet et la suite des liens avec les différentes confs départementales et le boulot considérable qui est fourni par la commission foncier de la conf, on espère que tout ça, dans les années qui viennent, on va réussir à en faire un enjeu vraiment plus visible et plus fort nationalement. Parce que c'est sûr que c'est plus facile pour nous, quand on démantèle une bassine en plein jour, d'être vu et compris par un très grand public que sur ces questions-là, alors qu'elles sont tout aussi cruciales pour nous. Elles sont cruciales parce que précisément, la moitié des terres dans ce pays avec les départs à la retraite vont changer de main dans les 10 ans à venir. Et que si on veut prendre au sérieux la question écologique, la question de la défense de la nature, eh bien, il faut qu'on prenne ces terres, il faut qu'on les reprenne, il faut qu'on s'installe légalement, illégalement, en collectif ou tout seul, mais il faut qu'on prenne ces terres et qu'on les cultive. Et c'est ça, prendre l'écologie au sérieux, c'est ça, refaire descendre l'écologie sur terre. C'est pas simplement faire des pétitions, réclamer des lois, mais c'est agir ensemble tout de suite sur la question des terres. Et je vais finir en vous donnant 2-3 éléments de la saison qui vient, des soulèvements. Du coup, le prochain gros rendez-vous auquel on vous invite vraiment à venir à converger de toute la France, même si ici c'est loin, c'est la manif fin de chantier contre le démarrage des travaux des bassines. Les bassines, c'est une des infrastructures stratégiques pour permettre la poursuite du développement du complexe agro-industriel malgré la pénurie d'eau. Et donc là, on est parti sur l'idée qu'on ne laissera pas faire une bassine de plus ni dans le Marais Poitevin, ni ailleurs, que ce projet il est préfigurateur d'un déploiement au niveau national de ces infrastructures, qu'elles bénéficient à une infime minorité d'exploitants agricoles, dont la plupart des productions vont à l'export. Donc voilà, c'est de la maïsiculture, c'est des gros céréaliers, etc. Et du coup, le démarrage des travaux est imminent, probablement annoncé le 5 septembre. Il y aura très vite une annonce de la date de la manifestation. Je peux déjà vous dire qu'il y a de fortes chances qu'elle soit le week-end du 1er et 2 octobre. Et on espère qu'il y aura autant de bus que de la conf que pour le printemps maraîchin. Autant de monde qui est venu de partout, on était plus de 7000. Et l'idée, c'est de mettre fin au chantier, défaire ce qu'ils ont fait ou empêcher qu'ils continuent par tout un ensemble de moyens différents, avec nos cultures différentes, nos manières de faire. Donc on espère vous voir vraiment très nombreux et il y aura des réunions publiques dans toute la France en vue de cette manifestation. Et ça, c'est un peu le premier élément. Et ensuite, les deuxièmes éléments au niveau de la saison, c'est que des bassines, il n'y en a pas que pour l'agro-industrie en Deux-Sèvres. Il y a également toute la montagne qui est artificialisée pour les loisirs des gens du style de Bernard Arnault qui ont ce type de niveau de villa avec des rétentions d'eau pour les canons à neige. Et du coup, il y a une action qui n'est pas annoncée par une date publiquement, mais une action qu'on va tous vous inviter à soutenir, qui va se mener là-bas du côté de l'Aclusa et qui va consister à poser des gestes forts d'occupation, de blocage pour empêcher ces travaux de commencer. Et donc, on vous tiendra au courant par le biais de la lettre d'info des soulèvements et par les réseaux pour que vous puissiez tous et toutes vous mobiliser et venir. Voilà, on va continuer aussi à travailler sur l'axe de l'artificialisation où il y a eu des mobilisations les années précédentes, que ce soit autour des sites Lafarge ou encore très récemment, le 3 juillet dernier, une manifestation contre les carrières à Saint-Colomban. On était plus d'une cinquantaine de tracteurs et 700 personnes. Il va y avoir d'autres épisodes de ce type dans les mois qui viennent, d'autres mobilisations contre le bétonnage, l'artificialisation. Et il y a aussi des réflexions, des enquêtes qui commencent à se mener sur la question des transports, des routes, sur la question aussi de l'accaparement des terres à des fins énergétiques, sur le photovoltaïque, ce genre de choses. Et donc tout ça, c'est des groupes de travail dont on espère qu'ils vont aboutir très vite à des campagnes et à des actions futures. Et j'espère aussi qu'on se retrouvera en d'autres circonstances pour aller plus loin ensemble. C'est toujours assez grisant d'avoir un chantier comme ça, juste à portée de main. Et de voilà, la prochaine fois, on compte sur vous.
Cette manifestation avait pour but de revendiquer une vraie loi foncière, une loi qui lutte contre l'accaparement des terres, qui intervient avec des moyens sur les transactions de parts sociales, mais qui aussi protège les terres agricoles contre la bétonisation. Notre département, malheureusement aussi, c'est un problème qu'on connaît bien et c'est un véritable fléau, quoi. Aujourd'hui, on vendange Bernard Arnault et ses vendanges sont les vendanges de la colère. Parce que pour que la terre reste aux paysans et aux paysannes et qu'on ait des paysans nombreux et des paysannes nombreuses. Les enjeux à la fois alimentaires qui se posent à nous et à la fois du réchauffement climatique, on l'a bien vu avec cette année exceptionnelle où on n'a jamais vu ça, où on a eu si peu d'eau. Ces enjeux-là nécessitent d'avoir des paysans et des paysannes nombreux, d'avoir une diversité agricole sur les territoires pour fournir une alimentation diversifiée à la population. Donc c'est ces enjeux-là qui sont essentiels et pour ça, il faut avoir des paysans et des paysannes nombreux. Il faut que la terre reste aux paysans.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes-Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.